Chapitre 3 Les ressources de l'homme pieux dans les derniers jours. Au chapitre 2, nous avons été instruits sur le bas état de l'Église professante qui se manifestait déjà à l'époque. Le chapitre 3 donne une description solennelle du terrible état dans lequel la profession chrétienne tombera dans les derniers jours. Vivant dans ces jours-là, nous pouvons être reconnaissants de ne pas être laissés à notre propre jugement quant à l'état de la chrétienté. Dieu a prédit et décrit cet état de manière à ce que nous puissions avoir une appréciation juste et donnée de Dieu sur le peuple de Dieu professant. Ne connaissant pas le christianisme tel que présenté dans l'Écriture, la masse de la profession chrétienne considère le christianisme simplement comme un système religieux par lequel le monde peut graduellement être réformé et les païens civilisés. Beaucoup d'enfants de Dieu, n'ayant qu'une connaissance partielle du salut qu'apporte l'Évangile, chérissent même la fausse attente que le monde sera peu à peu converti par la propagation de l'Évangile et qu'ensuite le millénium sera introduit. Ainsi, parmi les simples professants, et chez beaucoup de vrais enfants de Dieu, il y a l'impression erronée que la chrétienté progresse vers une victoire triomphale sur le monde, la chair et le diable. La vérité claire de l'Écriture est que l'Église, vue sous l'aspect de la responsabilité de l'homme, est tellement en ruine que la masse de ceux qui forment la chrétienté sont passibles du jugement. Les écrivains inspirés du Nouveau Testament sont unis pour avertir que le mal prévaudra dans la profession chrétienne au dernier jour et que le jugement surprendra la chrétienté. Jacques nous dit que « le juge se tient à la porte ». Jacques 5, versets 7 à 9. Pierre nous avertit que le jugement doit commencer par la maison de Dieu, et que dans les derniers jours, la profession chrétienne sera caractérisée par des moqueurs et un matérialisme grossier. 1 Pierre 4, verset 17. 2 Pierre 3, versets 3 à 5. Jean nous avertit que dans la dernière heure, des antichrists surgiront du milieu des chrétiens. 1 Jean 2, versets 18 et 19. Jude nous parle de l'apostasie qui vient, et l'apôtre Paul, dans ce passage solennel de 2 Timothée 3, nous prépare pour la corruption épouvantable qui caractérisera la profession chrétienne à la fin. Cependant, si nous avons cette description détaillée de la fin des derniers jours pour notre avertissement, nous avons aussi pour l'encouragement de l'homme pieux un déploiement tout aussi clair de la plénitude des ressources qui permettent aux croyants d'échapper aux corruptions de la chrétienté et de vivre pieusement dans le Christ Jésus. Ce sont donc les deux grands sujets de ce chapitre 3. Le mal de la chrétienté professante dans les derniers jours et les ressources des fidèles en présence du mal. Versets 1 à 9 La corruption de la chrétienté dans les derniers jours. Citation de l'Écriture. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux. Car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens. Car d'entre eux sont ceux qui s'introduisent dans les maisons, qui mènent captives des femmelettes chargées de péchés, entraînées par des convoitises diverses, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Or, de la même manière dont Jannès et Jambrès résistèrent à Moïse, ainsi aussi ceux-ci résistent à la vérité, hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi, mais ils n'iront pas plus avant, car leur folie sera manifeste pour tous, comme a été celle de ceux-là aussi. Fin de citation. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants quant à l'état de la chrétienté, ni que, sous un faux prétexte de charité, nous soyons indifférents quant au mal. Le serviteur du Seigneur commence donc cette partie de son instruction par les mots Or, sache ceci. Il nous avertit alors que, dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux. L'apôtre donne avec une grande précision un terrible tableau de la condition dans laquelle tombera la chrétienté, en détaillant les caractères saillants de ceux qui formeront la masse de la profession chrétienne dans ces derniers jours. L'Esprit de Dieu parle de ces professants religieux comme des hommes, car il n'y a pas de raison de les appeler saints ou croyants. Et pourtant, notons-le, l'apôtre ne décrit pas la condition des hommes païens, mais celle de ceux qui font profession du christianisme en affectant une forme extérieure de piété. 19 caractères sont placés devant nous dans ce terrible tableau. Premièrement, les hommes seront égoïstes. Le premier caractère de la chrétienté dans les derniers jours, et le plus saillant, est l'égoïsme, ou l'amour de soi. Ceci est en contraste direct avec le vrai christianisme qui nous enseigne que Christ est mort pour tous afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. 2 Corinthiens 5, verset 15. Deuxièmement, ils seront avares ou aimant l'argent. S'aimer soi-même conduira à aimer l'argent, car avec l'argent, les hommes peuvent acheter ce qui permet de satisfaire le moi. Le christianisme nous enseigne que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux, et que ceux qui s'y livrent s'égareront de la foi et se transperceront eux-mêmes de beaucoup de douleurs. 1 Timothée 6, verset 10. Troisièmement, ils seront vantards. L'amour de l'argent rendra les hommes vantards. Il est parlé dans l'Écriture de ceux qui se confient en leurs biens et se glorifient en l'abondance de leurs richesses. Psaume 49, verset 6. Et encore, le méchant se glorifie du désir de son âme, et il bénit l'avare, il méprise l'Éternel. Psaume 10, verset 3. Non seulement les hommes se vantent de leur habileté à acquérir des richesses, mais ayant accumulé les richesses, ils prennent souvent l'occasion de claironner leur œuvre de charité, en contraste avec l'humble grâce du christianisme qui nous enseigne à donner de manière à ce que la main gauche ne sache pas ce que fait la droite. Quatrièmement, ils seront hautains ou arrogants. La vantardise qui se glorifie de soi est étroitement alliée à l'arrogance ou orgueil qui fait grand cas de la naissance, de la position sociale et des capacités naturelles, en contraste avec le christianisme qui nous conduit à estimer ces choses comme des pertes à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus notre Seigneur. Cinquièmement, ils seront outrageux ou blasphémateurs. L'orgueil conduit au blasphème. Fiers de leur accomplissement et de leur capacité intellectuelle, les hommes n'hésitent pas à parler injurieusement de choses qu'ils ignorent. 2 Pierre 2, verset 12. Ou ne comprennent pas. Ils profèrent de grandes choses contre le Très-Haut. Daniel 7, verset 25. Et attaquent la personne et l'œuvre de Christ, refusant la révélation et se moquant de l'inspiration. Sixièmement, ils seront désobéissants à leurs parents. Si les hommes sont capables de blasphémer contre Dieu, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient désobéissants à leurs parents. S'ils ont peu de respect pour les personnes divines, ils n'auront pas de respect pour les relations humaines. Septièmement, ils seront ingrats. Ceux qui sont désobéissants à leurs parents reçoivent toute miséricorde de la part de Dieu ou des hommes comme une chose due, ne donnant lieu à aucune gratitude. Le christianisme nous enseigne que toute créature de Dieu doit être prise avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité. 1 Timothée 4, verset 3. Huitièmement, ils seront sans piété ou profanes. S'ils sont ingrats en rapport avec les bénédictions temporelles et spirituelles, les hommes se moqueront bientôt et mépriseront la miséricorde et la grâce qui accordent ces bénédictions. Ésaü a méprisé de façon profane le droit d'aînesse avec lequel Dieu voulait le bénir. Neuvièmement, ils seront sans affection naturelle. L'homme qui traite légèrement l'amour et la miséricorde de Dieu perdra rapidement les affections naturelles envers les personnes qui l'entourent. L'égoïsme ou l'amour de soi conduit à l'indifférence à l'égard des liens de famille ou même à les considérer comme une entrave à son propre plaisir. Dixièmement, ils seront déloyaux ou implacables. L'homme qui est imperméable à l'appel des affections naturelles deviendra certainement implacable, ou quelqu'un qui ne peut pas être convaincu et qui ne peut pas être apaisé. Onzièmement, ils seront faux accusateurs ou calomniateurs. Celui dont l'esprit vindicatif est imperméable à tout appel n'hésitera pas à calomnier ou accuser faussement ce qui contrecarre sa volonté. Douzièmement, ils seront incontinents ou intempérants. L'homme qui n'hésite pas à calomnier les autres de sa langue perdra facilement contrôle de lui-même et agira sans retenue. Treizièmement, ils seront cruels ou sauvages. Celui qui calomnie les autres en parole et qui agit sans contrainte manifestera des dispositions cruelles dénuées de toute la douceur qui caractérise l'esprit chrétien. Quatorzièmement, ils n'aimeront pas le bien ou n'aimant pas les gens de bien. Les dispositions cruelles aveuglent inévitablement les hommes par rapport à ce qui est bon. Non seulement il y a dans la profession chrétienne des hommes qui aiment le mal, mais de fait, ils haïssent le bien. Quinzièmement, ils seront traîtres. N'aimant pas le bien, les hommes n'hésiteront pas à agir avec la méchanceté qui trahit les confidences et qui n'a pas de respect pour l'intimité de ceux qu'ils professent traiter en amis. Seizièmement, ils seront téméraires ou impétueux. L'homme qui peut trahir ses amis poursuivra avec détermination sa propre volonté en étant indifférent aux conséquences et sans égard pour les autres. Dix-septièmement, ils seront enflés d'orgueil ou ayant de vaines prétentions. Rempli de suffisance, l'homme téméraire cherche à couvrir sa propre volonté sous la vaine prétention d'agir pour le bien général. Dix-huitièmement, ils seront amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu. Les prétentions des hommes étant vaines, ce qu'ils recherchent manquera également de sérieux. Les nuages du jugement à venir peuvent s'amonceler, mais la chrétienté aveuglée par sa propre vanité et son égoïsme se livre à un tourbillon d'excitation, cherchant à trouver son plaisir dans la jouissance des sens. Les ministres officiels de la religion sont trop souvent les chefs de file de toutes sortes de plaisirs mondains. Dix-neuvièmement, ayant la forme de la piété mais en ayant renié la puissance. Ainsi, dans les derniers jours de la chrétienté, la masse professante s'abandonnera à toute forme de mal, tout en cherchant à couvrir sa méchanceté sous le manteau de la sainteté. Ainsi, les chrétiens de nom deviennent plus méchants que les païens, car, tout en se laissant aller à toutes les choses mauvaises du paganisme, ils ajoutent à leur méchanceté le fait de chercher à la cacher sous un christianisme de forme, bien que totalement dépourvu de puissance spirituelle. Quoi de plus méchant et sans espoir que de s'efforcer d'utiliser le nom de Christ comme d'un manteau pour le mal? C'est ce manteau sacré qui fait des derniers jours des temps fâcheux, car l'apparence de la piété trompe parfois même les vrais chrétiens. On remarquera que le premier mal hors du commun dans ce terrible tableau est l'égoïsme débridé des hommes qui conduit à toutes les autres choses mauvaises. Les hommes étant égoïstes, convoitent pour eux et se vantent d'eux-mêmes. Se vantant d'eux, ils n'accepteront aucune contrainte sur eux-mêmes, qu'elle soit humaine ou divine. L'amour de soi et l'assouvissement de soi rendront les hommes ingrats, profanes et les conduiront à passer par-dessus l'affection naturelle et les rendront implacables et calomniateurs. L'amour de soi conduira les hommes à donner libre cours à leurs passions, menant à la cruauté en présence de tout ce qui contrecarre leur volonté. Il conduira les hommes à mépriser ce qui est bon, à trahir les secrets, et avec une vanité impétueuse, à être amis des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu. Voilà le terrible tableau que l'Écriture présente des derniers jours de la profession chrétienne. Israël, qui avait été mis à part de toutes les nations pour rendre témoignage au vrai Dieu, a tellement failli à sa responsabilité qu'il a dû être dit de lui à la fin « Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations. » Romains 2, verset 24. Mais combien plus terrible a été l'effondrement de l'Église professante en dépit de ce qu'elle avait beaucoup plus de lumière et de plus grands privilèges. Établie pour être témoin de Christ durant le temps de son absence, la grande masse de ceux qui professent le nom de Christ ont sombré en dessous du niveau des païens et sont devenus l'expression de la volonté et des passions des hommes et ont ainsi porté l'opprobre sur le nom béni de Christ. Peut-on s'étonner que la fin de ceux qui professent le nom de Christ sur la terre soit d'être vomi de sa bouche. Néanmoins, n'oublions pas qu'au milieu de cette grande profession, Dieu a les siens et que le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Aucun des siens ne sera perdu, et ceux qui forment la véritable Église de Dieu seront finalement présentés à Christ sans tache, ni ride, ni rien de semblable. En attendant, le peuple fidèle à Dieu, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, sont clairement enseignés à se détourner de la profession corrompue de la chrétienté. Nous ne sommes pas appelés à contester avec ceux qui forment cette grande profession, et encore moins à appeler le jugement sur eux. Nous devons nous en détourner et les laisser au jugement de Dieu. Ce n'est qu'en étant séparés de la profession corrompue de la chrétienté que nous apprécierons vraiment son terrible état et que nous serons des témoins convenables de la vérité. Réalisant l'état de la chrétienté, nous nous humilierons devant Dieu en confessant notre défaillance et notre faiblesse, nous souvenant que nous aussi avons la chair en nous qui, si ce n'était sa miséricorde, pourrait facilement nous entraîner dans ces choses mauvaises. L'écrivain de l'Épître a décrit la terrible condition qui marquera la chrétienté dans son ensemble au dernier jour. Il nous met en garde, au verset 6 à 9, contre un mal particulier qui surgira de cette corruption. Une classe spéciale d'hommes se lèvera, des instruments actifs résistant à la vérité en enseignant l'erreur. En plus de leurs faux enseignements, de tels hommes sont condamnés par les méthodes sournoises qu'ils adoptent. Nous lisons qu'ils s'introduisent dans les maisons. Une caractéristique de l'erreur est qu'elle fuit la lumière et qu'elle est d'abord promulguée en secret. Ensuite, lorsque le terrain a été secrètement préparé par des méthodes sournoises, les propagateurs de l'erreur ne craignent plus de déclarer ouvertement leur fausse doctrine. L'erreur étant déclarée publiquement, on découvre en général au grand jour qu'elle a été secrètement tenue et enseignée pendant des années. En outre, ces faux docteurs sont condamnés par le fait qu'ils font appel à ceux qui sont qualifiés de femmelettes, qui sont en mesure d'influencer les maisons et les familles de chrétiens professants. L'apôtre utilise probablement ce terme méprisant de femmelettes pour exposer une classe efféminée de personnes, hommes ou femmes, qui sont gouvernés par leurs émotions et leurs convoitises, plutôt que par la conscience et la raison. Avec des esprits obsédés par l'erreur, quoi qu'ils se vantent d'apprendre toujours, ils ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. L'erreur laisse ses victimes dans les ténèbres de l'incertitude. Comme Jannès et Jambrès autrefois, ces enseignants résistent à la vérité, en imitant les formes extérieures de la religion, tandis qu'ils sont totalement dépourvus de tout ce qui est vital dans le christianisme. Ils sont des hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi. On peut faire remonter tous les systèmes faux de la chrétienté à des hommes dont les pensées ont été corrompues par le mal et dont la foi était sans valeur. Néanmoins, Dieu, dans ses voies gouvernementales, permet souvent que ces faux docteurs soient complètement dévoilés aux yeux de tous les hommes. La folie de ces systèmes religieux, ainsi que les mauvaises vies de beaucoup de leurs meneurs, ont été pleinement exposées à de multiples reprises devant le monde, au point qu'ils sont devenus des objets de mépris aux yeux de tous, hormis de leurs victimes bercées d'illusions. Versets 10 à 17. Les ressources de l'homme pieux en présence du mal. Dans la dernière moitié du chapitre, nous sommes instruits de la riche provision que Dieu a faite pour que son peuple soit préservé des corruptions de la chrétienté et qu'il agisse comme il convient à l'homme de Dieu dans les derniers jours. Citation de l'Écriture. Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelles persécutions j'ai endurées! Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises, et que, dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Fin de citation. Premièrement, il nous est expressément dit que la grande sauvegarde contre tout ce qui est faux est la connaissance de ce qui est vrai. L'apôtre peut ainsi dire à Timothée : Tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances. Il n'est pas nécessaire de connaître pleinement le mal, car nous n'y échapperons pas simplement en faisant sa connaissance. C'est par la connaissance de la vérité que nous pouvons détecter ce qui est faux et contraire à la vérité. En ayant détecté le mal, nous sommes exhortés à ne pas nous en occuper, mais à nous détourner de ceux qui le poursuivent. La vérité a été présentée dans la doctrine de l'apôtre, ma doctrine, et elle nous est déployée dans ses épîtres. Elle peut être résumée comme la mise de côté complète de l'homme selon la chair, comme étant complètement corrompu et dans la mort, la condamnation du vieil homme à la croix de Christ, et l'introduction d'un nouvel homme dans la vie et l'incorruptibilité. Ce nouvel homme étant présenté en Christ, ressuscité et glorifié, auquel les croyants, d'entre les Juifs et d'entre les nations, sont unis en un seul corps par le Saint-Esprit. Paul peut dire à Timothée : Tu as pleinement compris cette doctrine, la sienne, ma doctrine. Plus nous entrons dans la doctrine de Paul, plus nous serons capables de détecter le mal de ces derniers jours et de nous en détourner. Deuxièmement, l'apôtre peut rappeler sa conduite. Sa vie était en parfait accord avec la doctrine qu'il enseignait. En ceci, sans doute, l'apôtre voulait souligner le contraste avec les mauvais docteurs dont il avait parlé. Leur folie était dévoilée dans la mesure où leur vie était en contradiction évidente avec leur prétendue piété. Il était manifeste à tous que leur profession de piété, purement de forme, n'avait aucune puissance sur leur vie. Avec l'apôtre, c'était de loin le contraire. Dans sa doctrine, il proclamait l'appel céleste des saints, et conformément à sa doctrine, sa conduite était celle d'un étranger et d'un pèlerin dont la citoyenneté est au ciel. C'était une vie gouvernée par un but précis, vécue dans la foi, manifestant le caractère de Christ en tout support, amour, patience, impliquant persécution et souffrance. Ainsi, la première grande sauvegarde contre le mal des derniers jours est la connaissance de la vérité. La seconde sauvegarde est une vie vécue en accord avec la vérité. Il y a toutefois une autre source de sécurité, car, troisièmement, il nous est parlé du soutien du Seigneur. Paul peut en témoigner de sa propre expérience, car, parlant des souffrances et des persécutions de sa vie, il peut dire « Le Seigneur m'a délivré de toutes ». Si nous sommes diligents pour connaître la doctrine, si nous sommes prêts à vivre une vie en accord avec la doctrine, nous réaliserons le soutien du Seigneur. D'autres peuvent nous abandonner, comme ils l'ont fait vis-à-vis de l'apôtre. D'autres peuvent penser que nous sommes trop extrémistes et trop ennemis des compromis. Mais, en combattant pour la foi, nous trouverons comme lui que le Seigneur se tiendra près de nous, qu'il nous fortifiera, qu'il nous rendra capables de proclamer la vérité, qu'il nous délivrera de la gueule du lion et de toute mauvaise œuvre, et qu'il nous préservera pour son royaume céleste. Chapitre 3, verset 11 et chapitre 4, versets 17 et 18. Il nous est rappelé combien le soutien du Seigneur est nécessaire, car nous sommes avertis que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. La forme de la persécution peut varier selon les temps et les lieux, mais il reste vrai que celui qui se tient à l'écart du mal de la chrétienté et cherche à maintenir la vérité doit être prêt à rencontrer la désertion, les insultes et la méchanceté. Comment peut-il en être autrement, y compris dans la chrétienté, quand les hommes méchants et les imposteurs vont de mal en pis, séduisant et étant séduits. Quatrièmement, en présence du mal, les fidèles trouveront la sécurité et le soutien en demeurant dans les choses qu'ils ont apprises par l'apôtre. C'est ainsi qu'il écrit à Timothée : Mets-toi, Demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Pour la troisième fois, au cours de sa courte épître, Paul souligne l'importance non seulement d'avoir la vérité, mais de la recevoir d'une source inspirée, si l'on veut qu'elle soit maintenue avec une pleine assurance. Voir chapitre 1, verset 13 et chapitre 2, verset 2. L'expérience démontre trop souvent que les croyants ne peuvent pas résister à l'erreur parce qu'ils ne sont pas pleinement convaincus de la vérité. En présence de l'erreur, et spécialement de l'erreur mélangée à la vérité, nous avons besoin d'être absolument assurés que les choses que nous avons apprises sont bien vraies. Nous ne pouvons avoir cette assurance qu'en sachant que celui dont nous avons reçu la vérité parle avec une autorité inspirée. Un docteur peut placer la vérité devant nous, mais aucun docteur ne peut parler avec une autorité inspirée. Il doit nous diriger vers les écrits inspirés des apôtres si nous voulons tenir la vérité dans la foi et l'assurance. En présence d'hommes méchants et séducteurs ou imposteurs, allant de mal en pis, apportant toujours de nouveaux développements au mal, nous devons bien nous garder de tout ce qui professe être une nouvelle lumière, et il faut demeurer dans les choses que nous avons apprises. Ainsi, la sauvegarde finale contre l'erreur est l'inspiration et la suffisance des saintes Écritures. Les hommes étalent leurs théories changeantes et innombrables, mais dans les Écritures, nous avons toutes les vérités qui nous sont profitables, et elles nous sont préservées sous une forme permanente, gardées de l'erreur par l'inspiration et présentées avec autorité divine. Sans doute, les saintes Écritures que Timothée connaissait dès son enfance étaient les Écritures de l'Ancien Testament. Mais quand l'apôtre déclare ensuite que toute Écriture est inspirée de Dieu, il inclut le Nouveau Testament avec tous les écrits apostoliques. Nous savons que Pierre classe toutes les épîtres de Paul parmi les autres Écritures. 2 Pierre 3, verset 16. En outre, le grand gain des Écritures est placé devant nous. Premièrement, elles sont capables de nous rendre sages à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Deuxièmement, ayant été dirigés vers Christ pour trouver le salut en lui, nous découvrons ensuite que toute Écriture est utile ou profitable pour le croyant, dans la mesure où nous découvrons des choses qui regardent Christ dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, versets 27 et 44. Nous trouverons encore combien les Écritures sont utiles pour convaincre. Hélas, nous pouvons être aveugles quant à nos propres fautes et tellement remplis de notre propre importance que nous sommes sourds aux remontrances des autres. Mais si nous sommes soumis à la parole, nous trouverons que l'Écriture sert à convaincre, car elle est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. En outre, non seulement les Écritures convainquent, mais elles sont aussi utiles pour corriger. Ayant convaincu, elles corrigeront, et ayant corrigé, elles nous instruiront dans la bonne voie. Ayant donc les Écritures inspirées, il est possible pour l'homme de Dieu d'être pleinement établi dans la vérité en présence d'erreurs abondantes, et d'être parfaitement accompli en toute bonne œuvre dans un jour mauvais.